Bonjour Daniel Messager.
Bonjour.
Les perturbateurs endocriniens ont fait leur apparition dans la campagne électorale.
Aux primaires de la gauche, en tout cas, le sujet a été souvent abordé, en particulier par son vainqueur, Benoît Hamon, qui l'a placé au cœur des préoccupations dans les années à venir.
Et il se trouve qu'un chercheur, dont c'est l'un des centres d'intérêt, vient d'être récompensé.
Par l'Académie de médecine et par le prix Jacques et Jacqueline Salabarou, Bernard Jégoux, c'est vous qui venez d'être salué par ce prix. Vous êtes chercheur à l'INSERM, directeur de l'Institut de recherche santé, environnement et travail à Rennes et spécialisé dans la recherche sur la reproduction masculine. Alors, ça fait des années que l'on dit qu'il y a une baisse de la production des spermatozoïdes qui pourrait être liée justement aux perturbateurs endocriniens. Et vous, ça fait plus de 30 ans en fait que vous signalez.
On a attiré l'attention très tôt sur l'accumulation de données du côté des États-Unis où le concept de perturbation endocrinienne émergeait et du côté de l'Europe où l'idée que la production des spermatozoïdes pourrait décliner était apparue. Et pour la petite histoire, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à l'époque, s'appelait François Fillon. On était allé voir son conseiller santé, qui était le professeur Claude Griselli, pour lui dire « Attention, soyez en veille. »
Et alors, vous avez entendu à l'époque ?
Oui, oui, oui. Quels que soient les gouvernements qui se sont succédés depuis le début des années 90.
Donc il y a incontestablement une baisse de la production des spermatozoïdes. Et à la question, est-ce qu'on peut la lier justement directement à l'émergence de ces perturbateurs endocriniens ?
Il y a une littérature abondante scientifique sur le sujet. Il y a très peu d'études solides. Celle de Joinet, Jacques Auger, dans Paris Intramuros, qui a montré qu'entre le début des années 70 et le début des années 90, il y a eu une baisse probablement incontestable à Paris. Est-ce qu'on peut la lier aux perturbateurs endocriniens ? Là est toute la question. Chez l'animal, on a pu montrer que l'administration de produits à caractère perturbateur endocrinien impacte la production d'hormones et la production de spermatozoïdes, comme les phtalates par exemple, comme le bisphénol A, mais aussi comme certains médicaments.
Vous disiez, ces résultats, ils ont été établis sur Paris. Ça veut dire que c'est pas forcément les mêmes en campagne, par exemple. Mais ça, on l'ignore parce qu'il n'y a pas eu d'études.
Voilà. Disons que les études sont très morcelées. Puisque lorsqu'on compare, par exemple, quatre pays européens, eh bien, on se rend compte que la production spermatique en Finlande, dans la ville de Turku, qui est le port principal, est beaucoup plus forte qu'à Paris ou qu'à Copenhague, alors qu'elle se rapproche de celle d'Édimbourg.
Est-ce qu'on sait pourquoi les Finlandais produisent davantage de sperme que Parisiens ou les Écossais ?
Non, on ne le sait pas. Il y a peut-être l'origine des populations, il y a peut-être le fait que la Finlande a été pendant longtemps un pays à faible densité de population et un pays très agraire. Mais ce qu'on sait en Finlande, c'est qu'on assiste à une érosion de leur production spermatique.
Donc chez eux aussi, ça diminue.
Un petit peu comme si...
C'était inéluctable ?
Une signature de ce qu'est un homme moderne dans une société industrialisée serait d'avoir une production spermatique d'environ 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Ce qui fait encore beaucoup. Vous savez, à chaque battement de cœur d'un homme, il produit 1500 à 2000 spermatozoïdes.
Il y a encore une réserve.
Il y a encore de la réserve, voilà. Et attention à ne pas extrapoler cette baisse avec une baisse de la fertilité humaine. Ça, c'est une autre chose. Idéalement, il faudrait réaliser des études prospectives. Depuis le début des années 90, rien n'a été fait pour voir si cette baisse entre les années 70 et 90 est toujours en cours ou pas.
Études prospectives, c'est-à-dire se dire, dans les 10 années à venir,
exactement,
on va suivre un échantillon de population.
Voilà, c'est ce qui a été fait au Danemark, c'est ce qui a été fait en Finlande et ce qui a été fait en Suède. Tous les ans, tous les 2 ans, on s'adresse à des volontaires. Hein. On demande aux hommes de fournir du sperme dans les mêmes tranches d'âge, avec le même délai d'abstinence, et on voit comment ça évolue.
Et si ce type d'étude n'est pas mis en place, on ne disposera pas des moyens de prévenir. Alors, ce n'est pas anecdotique, c'est un indicateur de santé publique. Si la reproduction est chancelante, cela signifie que d'autres indicateurs de santé sont également chancelants.
Merci, Daniel Messager.